Maintenant, je vous présente notre conférencière ce soir. Il s'agit de Cécile Alvernia, qui est née en 1941. Elle a fait d'abord des études de comptabilité. Vous allez voir, c'est un parcours diversifié et complexe. Elle a fait d'abord des études de gestion. Elle a travaillé en entreprise jusque vers le début des années 70. Ensuite, elle a fait des études de psychologie et de sociologie. Et elle est entrée dans le journalisme. Elle s'est spécialisée notamment dans le journalisme et les livres pour enfants. Elle a ouvert une librairie pour enfants. Et à partir de 83, elle fait partie des gens qui se sont intéressés par les premiers à la télématique, notamment dans le domaine des études, au moment où se lançait la télématique première génération, le Minitel, donc. Et ça l'a amené tout naturellement à s'intéresser à l'Internet à partir des années 90. Elle est membre de la Commission nationale de l'informatique et liberté, mais elle est aussi membre de la Fédération des entreprises de vente à distance, membre du conseil d'administration de l'Association pour le commerce et les services en ligne. Nous avons tenu à avoir sur ce sujet une professionnelle de ses activités de commerce en ligne et de travail en ligne. Et elle est actuellement directrice générale de l'Échangeur. L'Échangeur, c'est un groupement européen d'intérêt économique, centre européen de réflexion et de formation sur les nouvelles technologies du commerce de biens et de services. Et elle va nous parler pendant une cinquantaine de minutes de protection de la vie privée et société de surveillance, avec des illustrations, comme vous verrez. Merci.
Bonsoir. Et la liste est longue. C'est une vie. Pour commencer, je voulais repréciser que l'avènement de cette société d'économie et d'information, dont Internet en est l'infrastructure la plus visible et la plus connue, représente l'un des phénomènes majeurs de la fin du XXe siècle que personne ne peut ignorer aujourd'hui. Si je vous avais parlé il y a encore un an, je n'aurais pas du tout démarré comme ça, car il y a encore un an, beaucoup de gens ignoraient. Nous assistons à la naissance d'un monde où de nouvelles formes d'échanges s'imposent, que ce soit au niveau de l'information, de l'économie et du commerce, de la politique, de l'administration. Son accessibilité mondiale en fait un formidable outil au service de la liberté d'expression et des échanges entre les personnes, mais comme tout, il y a du pour, il y a du contre, et si c'est un formidable outil au service de la liberté d'expression et des échanges, il y a quelques problèmes, comme nous pourrons le voir ensuite. Par leur nature, ces technologies ouvrent de nombreuses voies pour de nouveaux usages, dont à ce jour on ne connaît qu'une très faible part. En effet, j'ai connu le début de la télématique française. Dans les années 81, nous avions pensé tout simplement a changé l'annuaire papier de France Télécom par un annuaire électronique, et vous avez pu voir tous les services qui ont été faits après, parce que les hommes et les femmes qui se sont lancés dans cette aventure de la télématique française ont inventé des usages et les consommateurs ont répondu. Alors, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que cette technologie évolue avec une rapidité sans précédent. En effet, la rapidité est due au fait que les transformations sociales et techniques se nourrissent directement l'une de l'autre et elles s'enrichissent mutuellement en continu. Une découverte faite à l'un des bouts du monde, qu'elle soit technologique ou au niveau d'un usage, est testée immédiatement sur plusieurs continents. Elle est observée, transposée et déployée avec une rapidité inégalée à ce jour. Ce raccourcissement de l'espace-temps et de la réactivité immédiate et sans précédent, et change radicalement les comportements et les données. Nous avions déjà, avec la micro-informatique, mesuré les avantages et constaté tous les inconvénients des capacités sans cesse améliorées de traitement, des informations, de stockage et de transfert. Aujourd'hui, avec l'essor d'Internet et sa mondialisation, nous découvrons réellement ce que change dans notre vie quotidienne l'accès généralisé aux informations et la facilité de leur collecte, de leur traitement, mais également la facilité de leur transposition. Alors, tout d'abord, je voulais voir de plus près quels sont les phénomènes complémentaires qui font que les nouvelles technologies créent de nouvelles formes de l'échange. La première, c'est l'accès à Internet qui se développe d'une manière importante. Je vous donnerai très peu de chiffres, mais je vous en ai quelques-uns. En France, 7 millions de personnes sont connectées. En Europe, 90 millions. Et dans le monde, 360 millions. Et ceci est aujourd'hui vrai. Il y a 6 mois, je vous aurais dit 3 millions en France. Vous voyez, 7 millions. À la fin de l'année, il y en aura pratiquement 10 millions. La deuxième chose importante, c'est la convergence des supports. C'est une chose nouvelle. En effet, l'Internet, par sa nature, est une technologie universelle qui a été pensée dès l'origine pour convenir à tout type de réseau et d'ordinateur. Le protocole de communication est très flexible et il permet de connecter, de faire que des terminaux divers et variés, nouveaux, qui arrivent en continu, eh bien, peuvent se connecter au réseau. C'est ainsi que vous pouvez recevoir via le câble ou via le réseau téléphonique sur votre télévision. Vous pouvez sur votre téléphone mobile, vous voyez ces petits téléphones, il y en a actuellement 24 millions en France, eh bien, de plus en plus, ils vont pouvoir se connecter avec une technologie qu'on appelle le WAP et vous pourrez aller sur Internet avec ce terminal. Les assistants numériques, ce que vous connaissez certainement, que nous avons certains, qui permet de gérer votre agenda, votre répertoire téléphonique, prendre des notes, et bien maintenant se connecte lui aussi à Internet. Voir d'autres objets plus dédiés. Nous avons aujourd'hui des livres électroniques qui permettent de télécharger sur Internet de façon totalement dématérialisée et bien de l'écrit et de l'image sur un livre, mais ce n'est pas un livre, c'est grand comme ça, c'est une bibliothèque que vous téléchargez. C'est les archives du monde que vous téléchargez et vous partez avec. De la même façon avec les terminaux MP3, cette nouvelle forme de dématérialisation de la musique, on en entend beaucoup parler depuis quelque temps, vous pouvez télécharger une partie de votre discothèque et l'emmener avec vous. Tout ceci, en effet, fait que les changements sont très importants. Et tous ces terminaux peuvent connecter ensemble via le réseau. La deuxième chose importante, qui est nouvelle aussi, c'est que la convergence se fait aussi sur l'échange d'informations, mais les informations elles-mêmes sont textuelles, sont des images, vous le verrez, animées, vidéo ou images fixes, et puis du son. J'écoute tout en travaillant ma radio, mais je ne l'écoute plus sur mon poste de radio, je l'écoute sur mon micro-ordinateur. Tout ceci maintenant, qui étaient des régulés, vus dans des endroits différents, sur des terminaux différents, avec des règles différentes, eh bien tout ceci se trouve en même temps transporté par le réseau, et ce média est un média en effet qui est ce qu'on appelle multimédia. Cette convergence des terminaux et des médias engendre donc la création de bases de données de plus en plus renseignées et nombreuses. C'était une chose quand on connectait dans des fichiers du texte. Aujourd'hui, vous le verrez, nous pouvons connecter dans des fichiers du texte, du son et de l'image. La troisième chose importante, c'est l'internationalisation, la connexion sans frontières. La dimension internationale du réseau permet en effet des flux transfrontières de données et une circulation internationale des informations. C'est bien évidemment dans des pays où les cultures, où les législations ne sont pas en harmonie. Alors, on peut voir le côté négatif, là encore, mais on peut voir le côté positif. Eh bien, tout ceci fait qu'un débat s'instaure entre les nations, qu'il est très riche, et que parfois, eh bien, nous nous enrichissons les uns et les autres, et nous voyons différemment, en fonction de toutes ces conversations, on en parlera plus précisément tout à l'heure, en matière de données personnelles. La grande nouveauté aussi, c'est que les données personnelles sont devenues un élément essentiel du marketing, du commerce et de la publicité sur Internet et sont devenues une valeur marchande très importante. En effet, la technologie a induit de nouveaux usages et nous sommes passés d'un marketing de masse, un produit identique pour tous, à un marketing de la personne, à savoir un produit unique pour chacun. Chaque fois, nous l'avions déjà vu, l'arrivée d'un mode de transport a changé les modes de distribution et de commerce. Je ne parlerai que du train. On l'a vu, le train avait fait que dans les villes, eh bien, on pouvait venir des campagnes et on pouvait aller à la ville. On avait créé les supermarchés. Ensuite, l'arrivée de la voiture a transformé ces modes de distribution, ces modes de commerce. Et nous avons vu arriver, dans les années 65-70, des hypermarchés où nous n'allions plus ensemble tous les dimanches à la messe, mais le samedi, tout le monde partait en voiture faire ses courses à l'hypermarché en dehors de la ville. Le réseau Internet, lui, apporte là aussi une nouvelle révolution. Et c'est cette façon de faire du marketing ou de vendre et d'acheter qu'on appelle, en un mot, le one-to-one, c'est-à-dire nous achetons un à un. Le vendeur va préparer un produit pour moi et je vais interagir sur la façon dont on va me préparer ce produit. Donc la prise de conscience de l'importance du consommateur est devenue une priorité et on le traite en fonction de ce qu'il représente et on lui fait l'objet qu'il souhaite ou qu'il demande ou qu'il désire. C'est là que nous voyons en effet que le consommateur va devenir acteur de sa propre consommation et qu'il y a des technologies de marketing qui sont mises au point pour que lui-même vienne fournir son profil. Et pour l'inciter à fournir son profil, eh bien, on va faire ce qu'on connaissait déjà dans le domaine du réel, mais là encore plus accentué, puisqu'on va lui donner des gains, on va le faire gagner. Mais nous allons gagner, l'entreprise va gagner aussi, puisque quand l'utilisateur, et on va le voir sur bananaloto.fr, nous allons nous connecter en direct sur Internet et vous verrez que ça ne marche pas si mal que ça. Donc, sur ce site-là, eh bien, je vais pouvoir laisser mes données, mon profil, mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, puis je peux même donner encore plus, vous le verrez, et instantanément, contrairement à ce que je faisais dans le monde de l'écrit, où j'écrivais déjà sur des documents qu'on me donnait, dans la presse, etc., eh bien là, je vais écrire directement sur le site. Je vais aller voir, cliquer ici, merci. Et vous voyez que nous pouvons remplir, tu me le montres, voilà, nous pouvons remplir nous-mêmes nos données, nous répondons à un questionnaire. Et l'intérêt pour l'entreprise, c'est que les données qui vont être inscrites sont immédiatement utilisées, elles sont numérisées, puisque je suis sur le réseau, qui est numérique, et instantanément mises dans un fichier. Donc il y a des gains de productivité assez importants, puisque je n'ai plus à les transposer, à les transformer, à faire intervenir quelqu'un. C'est directement moi qui rentre mes informations. Nous allons voir aussi comment le marketing personnalisé permet de faire que nous ne passons plus, comme ça l'était dans le temps, avec des offres faites pour des typologies de clients, les étudiants, les investisseurs, etc., etc. Ces profils étaient déterminés dans le marketing par des profils, et en fonction de ces profils, on faisait des produits. Aujourd'hui, nous passons à un marketing qui est beaucoup plus en finesse, dans lequel le client et l'utilisateur a un rôle accru et interagit, comme je l'ai dit tout à l'heure, directement auprès du site concerné. Le site Fidélis le montre très bien. Le client a la possibilité d'agir sur ses paramètres au fur et à mesure que sa situation évolue. Alors, on est là sur un site qui est un site, une banque, je vous le dis tout de suite, elle est virtuelle puisque c'est un site qu'on a fait faire, mais qui utilise une technologie où je vais rentrer sur le même site, sur la même banque, et selon que je suis David ou Franck, eh bien, vous verrez que je n'ai pas les mêmes choses. Alors, je vais rentrer d'abord, et je suis David. David est un étudiant. Il rentre, il met son nom, son mot de passe, et il va avoir, vous allez le constater, vous voyez David ? Eh bien, David est connecté, Et lui, qui est étudiant, il a eu une publicité pour lui seul, parce qu'on sait qu'il est étudiant. Il a eu des informations. Là, il a demandé des informations sur la technologie. Et continuellement, il pourra interagir. Comme je ne suis pas connectée, je ne peux pas vous le faire, vous allez me croire. Eh bien, il va demander tout de suite, comme ça, je ne veux plus des informations sur les technologies, mais je veux des informations sur le sport. Il va aller dans une page ici, qui est son profil, et sur son profil, il va interagir, il va dire, à partir de maintenant, quand je me connecte, je veux des informations sur le sport. Je vais passer maintenant sur un autre, qui est Franck. Franck n'est pas un étudiant, il est investisseur. Alors déjà, vous le voyez tout de suite au montant de leur compte, qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais vous voyez ici, il a eu une petite alerte parce qu'il a demandé que si ses actions passent en dessous d'un certain seuil, on l'informe. Vous voyez qu'ici, il a des informations professionnelles. Donc, les informations qu'il a là ne sont pas du tout les mêmes que celles de David. Et pourtant, il est sur le même site. Tu passes ensuite. Ici, je vous ai montré l'alerte. Vous voyez ici, on l'a alerté parce qu'il avait demandé d'être alerté quand la valeur de l'action était supérieure à ceci. Il peut à tout moment changer en cliquant sur « Modifier l'alerte » et il va aller là changer lui-même ses paramètres. Vous le voyez, il peut changer le nom de l'alerte, le symbole de l'action. Il fait tout lui-même et il peut faire beaucoup plus parce que là, il était sur un portable micro, mais il se trouve qu'il va se déplacer et il peut demander avant de partir que l'alerte lui soit envoyée plus sur son portable micro par le web, mais sur son télécopieur, dans son email, sur son téléphone portable, celui-là. Et instantanément, comme il le veut, où il le veut, il peut demander que l'alerte lui soit envoyée. Donc, vous le voyez, c'est tout à fait nouveau, car dans aucune autre forme d'information, de communication, de commerce, eh bien, on utilisait cette possibilité d'interagir et de personnaliser les informations ou les alertes que nous décidons. Une autre chose importante, c'est l'utilisation des adresses e-mail. Une adresse e-mail, c'est votre boîte aux lettres électronique. Eh bien, cette adresse e-mail, alors je vous donne encore un petit chiffre parce que c'est assez intéressant. Un communiqué de presse est tombé hier de l'Association française des fournisseurs d'accès Internet, c'est-à-dire ces gens, vous êtes obligés de passer par eux pour qu'ils vous donnent la possibilité de passer sur le réseau Internet. Vous en avez plusieurs, Wanadoo, etc. Et il donne un chiffre qui m'a semblé étonnant. Le nombre d'adresses de messages qui passent par tous leurs adhérents, ils regroupent l'ensemble des access providers en France aujourd'hui, est de 3 460 000 par jour. Alors, je vous ai dit qu'en France, il y avait 7 millions d'utilisateurs. Dans le monde, 360 000. Vous pouvez voir le nombre de messages qui transitent sur le réseau à ce jour. Là encore, la technologie a créé un nouvel usage. On connaissait le publipostage, le marketing direct, vous savez, tout ce qu'il y a dans vos boîtes aux lettres, qui encombre aussi parfois vos télécopieurs. Eh bien, aujourd'hui, on a découvert, en effet, le publipostage électronique. Et lors de la discussion sur la directive de commerce électronique qui vient de se traiter, d'être validée au niveau de l'Europe, on avait demandé à la CNIL de réfléchir sur cette nouvelle forme et voir si elle rentrait dans les règles et si elle n'embêtait pas ou si elle ne posait pas des problèmes par rapport à la vie privée et aux données personnelles des citoyens. J'ai fait un rapport, puisque je m'occupe tout particulièrement du commerce électronique, que vous pourrez voir d'ailleurs si ça vous intéresse sur le site de la CNIL, cnil.fr. Et on voit très bien, en effet, là émerger une nouvelle forme qui n'existait pas avant. S'il y a du publipostage électronique à l'égard de clients ou de visiteurs qui ont communiqué leurs adresses e-mail à l'entreprise, on est là de la même façon que ça se fait en domaine du monde réel. Les règles sont claires. J'ai communiqué mon adresse e-mail. si on est dans le cadre du bibliopostage électronique à l'égard de prospects à partir de listes d'emails obtenues parce qu'on les a loués auprès de tiers, là aussi, il y a des règles. Il suffit que je dise, quand on collecte mon adresse email, que je ne veux pas qu'elle soit rétrocédée, et l'entreprise est obligée de l'enlever. Par contre, la nouveauté avec Internet, avec les nouvelles technologies, c'est qu'on peut, avec des moteurs de recherche, aller capturer dans tous les espaces publics de l'Internet les données qui sont les vôtres, particulièrement votre adresse email, constituer des fichiers, ces fichiers les vendre, et ainsi, eh bien, des gens vont pouvoir faire de la prospection. C'est ce qu'on appelle le spamming, c'est un mot que vous entendrez souvent. C'est véritablement là quelque chose qui pose problème au regard des règles et de la loi, puisque vous le voyez bien, on va voir un email, eh bien, je reçois dans nos emails quelque chose alors que je n'ai jamais donné mon adresse email et je peux recevoir des choses diverses et variées qui concernent la politique, qui concernent le commerce, qui concernent la sexualité. Et je peux vous assurer que ceux qui font le plus de spamming aujourd'hui sont les sociétés américaines et particulièrement les sociétés qui font des sites de pornographie. Donc vous avez un visuel là, d'une adresse email, c'est un spamming qui est arrivé dans notre boîte aux lettres. C'est très embêtant parce que quand j'ai dans ma boîte aux lettres quelque chose, ça ne me coûte pas très cher. Quand j'ouvre ma boîte aux lettres et que j'ai des vingtaines et des trentaines d'emails qui m'ont été envoyés alors que je n'ai jamais rien demandé, que je ne connais pas ceux qui me l'ont envoyé, je paye la communication, et là, ça coûte très cher. Une nouveauté aussi par rapport à toute cette technologie de marketing, c'est que quand on faisait des catalogues, quand on faisait des prospectus commerciaux, ça coûtait cher pour l'entreprise, là, ça ne coûte rien. Le même catalogue numérique est envoyé à tout le monde, à vous, à moi, et pour l'entreprise, là, la prospection est à des prix défiant toute concurrence. Des technologies intéressantes aussi, nouvelles, qui sont les technologies du push, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on n'a pas pu faire en direct, c'est que je peux, à la demande, demander à une entreprise de m'envoyer dans mon email ou de me pousser des informations. Vous voyez bien que là, je n'ai pas besoin de lire plein de choses pour aller rechercher. Et c'est le cas du site que je vais vous montrer, Allociné. Où là, Allociné est un site qui existe, qui vient du bon vieux Minitel aussi, qui faisait jusqu'à il y a quelques années tout simplement de la vente de billets de cinéma. Maintenant, ils se sont mis à faire aussi de l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez ici, c'est que je peux demander de recevoir dans mon email l'actualité, celle que je veux, je choisis mes thèmes, et je peux aussi recevoir eh bien, des places de promotion pour les avant-premières et les promotions qu'Allociné réserve à ses internautes. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir des informations sur la personne. Pour la publicité, de la même façon, vous avez aujourd'hui une relation très, très étroite entre le publicitaire et celui qui va recevoir la publicité. Et je vais montrer une société qui s'appelle All Advantage, qui nous arrive des États-Unis, qui s'installe en France, et qui a inventé un nouveau concept où je suis sur Internet, il m'envoie un petit bandeau que j'ai demandé. Ce bandeau, je le mets ou je ne le mets pas, je le mets quand je veux. Mais si je le mets, pendant le temps où il m'envoie de la publicité, eh bien, je suis rémunérée. Et bien plus, ils me rémunèrent aussi si je leur donne des noms et des adresses et si je parraine des gens. Donc, vous voyez là, toute nouvelle conception de la façon de faire de la publicité. Ajoutons pour conclure cette partie que les fichiers clients sont l'une des richesses principales des sociétés de commerce en ligne. La valeur de ces sociétés repose en grande partie sur cette capacité à capter et fidéliser des clients. Ces sociétés considèrent ces fichiers comme éléments d'actifs et les valorisent comme tels dans leur bilan. C'est-à-dire, vous, moi, mes données personnelles sont devenues une valeur marchande importante. Ainsi, on l'a déjà vu, elle les rétrocède lors de faillites, de difficultés ou de ventes. Ce fut le cas de Boom.com, le cas de Toysmart, de Craft Shop, qui pour les deux derniers étaient d'ailleurs affiliés au site Trusty, qui est aux États-Unis une société qui donne un label de garantie. Si vous allez sur les sites américains, vous verrez, ils sont très très forts pour mettre partout Trusty, là, ce qu'ils font comme respect de la vie privée. N'empêche que ces sociétés ont bien vendu les fichiers informatiques lorsqu'ils ont été en difficulté. Aujourd'hui, et la presse s'en est fait l'écho, on voit la même chose, puisque Amazon.com, qui vient de s'installer en France avec Amazon.fr, Amazon.com vient lui aussi d'annoncer de telles pratiques sur leur site américain, Amazon.com. En dessous, vous allez voir sur le site, vous voyez, Privacy Notice, ils ont marqué un petit « new ». Eh bien, on va aller voir tout en bas. Alors là, c'est toute l'explication de ce qu'ils respectent comme vie privée. Et voilà. Attends que je vois. Voilà. Ici, vous voyez tout à coup quelque chose qui est apparu. Business transfer. C'est-à-dire qu'ils vous informent qu'en cas de problème, en cas de faillite, eh bien, ils se réservent le droit de rétrocéder leurs fichiers. Ceci est tellement important aux États-Unis qu'on a vu la Federal Trade Commission, qui est la structure FTC qui gère tout ce qui est le commerce aux États-Unis. Trusty a été les voir et ils sont en train d'étudier, de regarder. Et même la Maison-Blanche a décidé de réfléchir là-dessus pour voir s'il n'y aurait pas besoin de réguler. Un pays qui était plutôt dans l'autorégulation commence à se poser des questions sur la régulation. Nous allons voir maintenant comment les nouvelles technologies, et tout particulièrement le réseau Internet, constituent un puissant instrument de collecte de données personnelles. Il est très important de voir comment ça se passe, parce qu'on est passé avec la complicité de la technique d'une problématique du fichier à une problématique des traces informatiques. Avant, la constitution d'un fichier de données personnelles résultait d'une volonté, d'un choix, de l'administration, d'une entreprise. Les fichiers étaient physiquement éloignés les uns des autres, exploités sur des supports avec des formats différents, ce qui rendait les opérations d'interconnexion complexes et onéreuses. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons être fichés de façon très fine du fait de la performance des technologies et des réseaux. Alors voyons de façon précise les premières choses. Vos données de connexion. Chaque fois que vous connectez sur le réseau, puisque vous avez pris un access provider, un passeur, quelqu'un qui peut vous faire rentrer, eh bien, votre fournisseur d'accès récupère instantanément les données d'identification vous concernant. Adresse IP, identification de votre machine, IP étant le protocole Internet, donc on identifie votre machine, votre numéro de téléphone, bien sûr, puisque vous passez par le téléphone, l'heure et la durée de votre connexion. Première partie où, en effet, vous laissez un peu de traces. Deuxième partie, c'est les traces que vous donnez vous-même. Vos données d'identification personnelle. J'ai été, mais on ne va pas y aller, vous allez sur des sites pour acheter. J'avais pris le site de Télémarket, mais vous l'avez vu tout à l'heure avec le site de jeu, c'est exactement pareil. Pour qu'on puisse me livrer, à un moment quelconque, il faut bien que je laisse mes coordonnées. Ces coordonnées sont gardées, mais bien plus que ces coordonnées, on m'envoie un cookie qui va suivre ma navigation et qui va pouvoir mémoriser, mais là, les sites bien faits vous en informent, mémoriser ce que j'ai acheté, ce qui permettra la prochaine fois de récupérer mon panier virtuel et de ne pas avoir peut-être à remettre la bouteille d'huile, la boîte de sucre, enfin des choses qui ne sont pas très intéressantes, et je les récupère sans avoir à nouveau à les inscrire, ce qui est parfois fastidieux. La deuxième chose, qui est encore plus large, c'est les préférences, mes pôles d'intérêt, mon profil de façon très fine, peut être en effet complètement collecté. On va aller voir un site qui s'appelle meilleurtaux.com, toujours avec l'angoisse du direct. Eh bien, là, c'est un site qui vous permet d'avoir des prêts donc ils l'ont appelé meilleur taux, vous allez remplir votre dossier. Quelques minutes suffisent, cliquez ici. Ah non, c'était très intéressant, il a été trop vite, on a du mal à synchroniser parfois. Non, mais vous voyez là, le petit cadenas, très important, c'est-à-dire que la petite page qui était avant vous disait qu'on va passer en mode sécurisé et qu'à partir de là, tout ce que vous allez marquer sera un peu sécurisé avec un protocole qu'on appelle SSL. J'expliquerai plus tard pourquoi j'ai dit un peu. Vous voyez tout ce que l'on peut demander. Vous pouvez la situation de famille, sélectionner votre régime matrimonial, tu continues, tu descends. Votre contrat de travail, le nom de votre employeur, continue, voilà. La banque, et puis toutes les précisions que vous voulez donner. Là, on a déjà récolté beaucoup de choses sur vous. Vous les donnez parce que vous vous adressez à votre banque et vous voulez avoir un prêt intéressant. Donc, vous donnez vos données personnelles et de façon très fine. Mais tout ça est en effet, quelque part, chez quelqu'un, numérisé dans un fichier. Troisièmement, la trace de votre navigation. Là, c'est ce dont on parle le plus. Tel le petit pousset, vous laissez une multitude de traces lorsque vous surfez sur Internet. En effet, la quasi-totalité des sites utilisent des cookies. Alors, un cookie, c'est quoi? C'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas ce petit gâteau. Mais, vous voyez... Ah, c'est parti. Ça revient. Vous voyez ici, tout ce que j'ai fait depuis que je me suis connectée tout à l'heure. J'ai été me promener, je suis passée par NetGap, j'ai été chez .com, j'ai été sur DoubleClick, j'ai été sur Amazon, Et tout a été mémorisé. C'est toute la trace de ma navigation qui est mémorisée dans ces cookies. Ce sont quoi les cookies? Ce sont des petits logiciels qui sont envoyés sur le site de la CNIL. Vincent, le site de la CNIL. Ce sont des logiciels qui sont envoyés sur votre machine et qui vont se mettre sur le disque dur. Et chaque fois que vous promenerez, eh bien, on va suivre, on va vous tracer, on va suivre ce que vous avez fait, les pages que vous avez visitées, toute votre navigation. Alors, consciente de l'importance de ces cookies, c'est qu'on ne voit pas. Tout ça sont des traces invisibles. Quand je mets mes données, je le vois, mais là, je ne le vois pas. La CNIL a fait un dossier très important que je vous conseille d'aller voir, je ne vais justement pas trop m'étendre là-dessus, qui explique comment on peut faire, d'abord ce que c'est, ce que ça fait, comment on peut faire pour les enlever, pour les remettre, car pour ceci, eh bien, il faut apprendre à paramétrer son navigateur. Autre chose importante, c'est toutes les informations issues des forums de discussion et des espaces publics de l'Internet. Les adresses e-mail, on vient d'en parler. Mais c'est l'ensemble des sujets de discussion auxquels vous participez, auxquels vous contribuez, qui peuvent être captés. Les moteurs de recherche ont la possibilité de faire que toutes les conversations que vous dites sur un site, sur un forum, où vous avez envie de parler des escargots, des timbres-poste, parce que c'est votre hobby, eh bien, les forums aussi, vous parlez de politique, les forums, toutes sortes de forums, où vous faites une discussion personnelle avec une finalité précise, eh bien, peuvent être indexés et on peut en effet, de façon très fine, pouvoir vous suivre, connaître vos opinions, vos goûts et savoir ce que vous êtes. La fin de l'anonymat sur Internet, ça donne ça. Pour ceci, on passe par un petit moteur qui s'appelle Copernic. Eh bien, avec stupeur, si ça vous l'avez, vous pouvez taper Alvernia et vous serez... Continue. Voilà. Vous serez très précisément ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit dans tel endroit, à partir du moment... à quelle association je participe, on revient, c'est pas la peine que tout le monde puisse le lire. C'est la fin de l'anonymat. Et à partir du moment où sur Internet, il y a eu mon nom écrit quelque part, ou dans des associations auxquelles je participe parce qu'ils ont mis l'annuaire de l'association quelque part, sans me le demander parfois, eh bien, on sait exactement tout sur vous de façon très précise. J'en viens à la cinquième façon de faire, la localisation géographique. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, 25 millions en France de portables, dont seulement 10 000 sont, comme celui-là, connectés à Internet avec la technologie WAP. Mais d'ici la fin de l'année, les chiffres sont assez énormes. Le parc va être complètement renouvelé par les opérateurs télécoms et ça devrait donner 40 millions de connectables dans les 3 ans qui viennent, de téléphones mobiles connectables, 40 millions en France. Je dois dire que la France a de l'avance par rapport aux États-Unis sur cette technologie-là, ce qui, pour une fois, est quand même agréable. Eh bien, grâce à ce téléphone mobile, nous pouvons déterminer un profil, mais nous pouvons surtout localiser, savoir où se trouve la personne. Alors, on le peut déjà, techniquement, hein, je n'ai pas dit qu'on peut le faire, parce qu'il y a quand même des règles. Mais techniquement, on peut localiser quelqu'un, vous avez bien vu, on l'a déjà fait, quand on a retrouvé la personne qui s'était perdue en montagne, eh bien, grâce à ton téléphone portable, on l'a retrouvé. Parfois, c'est intéressant. Mais avec les nouvelles technologies qui arrivent, vous avez un maillage des stations terrestres des opérateurs télécoms qui couvrent presque entièrement la France et qui s'appuyant sur un système de triangulation qui permet de localiser votre mobile à partir de 3 stations en s'appuyant sur le GPRS qui est la nouvelle façon de transporter des informations qui arrivent là en fin d'année. Eh bien, nous pourrons localiser une personne, un téléphone mobile, mais derrière un téléphone mobile il y a une personne à 10 mètres. Et demain, avec l'UMTS, vous en avez tous entendu parler à cause de ces licences qui se vendent très cher, donc c'est demain, c'est l'année prochaine, eh bien, nous pourrons localiser une personne à 1 mètre. Alors, cette technologie est intéressante, nous allons la voir, car elle permet, si nous le désirons, toujours la même chose, je le demande, je le veux, je consens, elle permet d'avoir des informations locales en interrogeant une base via Internet, telle que l'adresse du restaurant le plus proche, de l'endroit où je me trouve, et accompagnée d'un plan d'accès. C'est ce qu'on vous montre ici. En effet, sur ce téléphone portable, eh bien, je peux, parce qu'il y a une base de données, poser des questions. Alors, c'est en anglais. Je peux chercher une pizza. Et je vais chercher une pizza à New York. Je vais avoir la rue, je me suis située et je vais avoir l'adresse exacte et on va me donner le plan. Je me suis située parce que la technologie aujourd'hui ne permet pas, en France, la technologie permet, mais les règles ne permettent pas en France d'utiliser la localisation. Si je suis localisée, je n'ai plus besoin de donner l'adresse. On m'a localisée et là j'ai fait une technologie qu'on appelle poule, j'ai été chercher de l'information, mais demain, avec la technologie push, on me repère et on m'enverra l'information. Je terminerai avec 2 autres choses, pour encore vous faire un peu plus peur. Nous parlerons de la vidéosurveillance, qui, une fois qu'elle est utilisée dans des fichiers structurés selon des critères spécifiques relatifs aux personnes et suivi comportemental de ces personnes, eh bien, permet en effet de localiser très très bien, pas simplement par de l'écrit, mais par de l'image. Et je vous parlerai surtout d'une nouvelle technologie qui lie à Internet. On appelle une webcam. Ah, j'ai oublié de la sortir, j'avais pensé vous la montrer. C'est une petite caméra qui se branche, qui est branchée à l'ordinateur. Mais on va voir tout de suite comment, dans la ville de Narbonne, pas à la CNIL, on n'a pas mis de webcam, mais la ville de Narbonne a équipé la ville de webcam et vous allez voir. Alors, il faut attendre parce qu'ici, on est en réseau de téléphone simple. Imaginez demain avec les téléphones nouveaux. Vous voyez la place de Narbonne. Je vais zoomer. Tu peux zoomer ? Voilà. Mais zoom sur des personnes parce que si là, il n'y a personne, ça ne m'intéresse pas. Voilà. je vais zoomer de façon très très fine, et moi, qui n'ai dit à personne que je me trouvais sur la place de Narbonne, surtout je ne voulais pas qu'on le sache, eh bien, si par hasard on se promène sur le site de la ville de Narbonne, eh bien, on voudra voir de façon très précise qu'à tel moment, au moment où on regarde, puisque c'est en direct, eh bien, je suis installée au café, alors que théoriquement j'avais dit à ma famille que je travaillais. Donc, la surveillance est très très fine. Nous pouvons aussi très facilement localiser avec un petit logiciel tout le parcours qui est fait sur un site. Je vais voir, je me suis connectée sur Amazon, mais je pourrais mettre une adresse personnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes ont fait des sites personnels. Et à ce moment-là, je vais instantanément voir où est situé, par où je passe, et où est situé le serveur qui héberge les informations. Vous le voyez de façon explicative. Et vous le voyez ici, de façon, je vois très bien que je suis passée par Stockholm et que j'ai été à Seattle quand j'ai été chercher le site Amazon. Mais j'ai pris Amazon, si c'est une adresse personnelle, je le fais aussi sur un site d'une personne. Autre endroit qui aujourd'hui commence à poser des problèmes, c'est dans l'entreprise. Disque dur, email et connexions sur Internet regorgent d'informations sur l'activité des salariés sur leur lieu de travail. Elles peuvent être utilisées par les employeurs pour contrôler la productivité de leurs employés. Selon une enquête de l'American Management Association, 45% des entreprises américaines surveillent électroniquement leurs employés en lisant leurs mails, leurs fichiers informatiques ou en contrôlant l'usage qu'ils font d'Internet. Je voudrais citer simplement un exemple qui a fait la une des journaux il y a quelque temps. La société Orange en Grande-Bretagne a licencié 60 personnes sous le prétexte qu'ils consultaient des sites pornographiques pendant les heures de travail. En France, la plupart des grandes entreprises s'appuient aujourd'hui sur des chartes d'utilisation. Pour exemple, chez Renault, il existe un code de déontologie qui précise les règles de conduite de base de tous les salariés qui utilisent Internet dans l'entreprise. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, ces règles et ces codes de déontologie dans les entreprises ont été faits en dehors des représentants du personnel et des syndicats. À la CNIL, il y a une personne qui s'appelle Hubert Boucher, qui est très sensible, qui est le commissaire qui s'occupe de ça, et qui est en train de travailler sur un dossier que nous devrions valider, pour que l'on puisse déterminer des recommandations qui aurait valeur de réglementation sur l'usage de ces outils en entreprise. Dernière chose, la biométrie. Vous le savez aujourd'hui, il est possible de faire que une personne soit reconnue par l'une de ses composantes comportementales ou physiques, à savoir la reconnaissance vocale, je parle à mon ordinateur, l'identification par mon iris, on reconnaît mon œil, par la morphologie du visage ou par tout simplement l'empreinte digitale. Là, comme c'est une technologie, je n'ai pas pu la porter, je vous ai fait des copies d'écran. C'est une technologie qui est développée par Sagem et Thomson, les deux en France, et qui permet, comme vous le voyez, dans une base, j'ai rentré, parce que sur ma puce, les nouvelles puces qui vont sortir ont une petite lamelle qui fait 1 cm sur 2 mm d'épaisseur, et quand je passe mon doigt dessus, on reconnaît mon empreinte digitale, on ne la scanne pas, c'est simplement par la chaleur, chaud et froid, puisque vous avez des creux et des bosses. Eh bien, on mémorise de cette façon, on reconnaît tous les petits infosites, ce qui est particulier à chacun. Et quand je rentre dans la base, quand je veux l'utiliser, que je veux être reconnu par mon index, par mon doigt, eh bien, je vais saisir sur ma puce. Et dans la base qui a été définie au départ, eh bien on va comparer les deux et on verra que celle-ci et celle-ci sont identiques et on pourra laisser la personne entrer. Alors, je vous dis ça parce que nous, on pense à l'échangeur, on a mis ça, toute la biométrie, dans les technologies émergentes. Eh bien, c'est une technologie qui n'est plus du tout émergente, puisqu'à la CNIL, nous avons vu les premiers dossiers où un lycée de Nice voulait utiliser la biométrie et la reconnaissance par la signature digitale pour que les élèves rentrent à la cantine. Alors, bon, c'est quand même des choses aujourd'hui qui arrivent. Et quand on voit l'impact et la façon dont les mentalités peuvent percevoir la signature digitale, c'est un peu embêtant, surtout quand on commence dans un lycée par des enfants. Par contre, c'est très important, en effet, pour sécuriser les transactions, pour sécuriser les choses dans le monde du commerce électronique, mais c'est une autre application. Alors, tu peux lancer une mi-d'état. Il devient donc matériellement possible de constituer de vastes bases de connaissances et de surveillance sur les personnes, puis de les comparer, de les traiter grâce à la puissance et à la sophistication des nouveaux outils disponibles aujourd'hui, et ceci à l'échelon mondial. Si l'ensemble de ce que je viens de vous présenter était mis en œuvre, c'est-à-dire tout croisé, ce qui, jusqu'à ce jour, est quand même, dans les pays où il y a une régulation, pas très permis, nous pourrions en arriver à un paroxysme tel que décrit dans un film. Je vous lance la vidéo, la bande-annonce ici, mais je vous conseille de le voir, parce que vous verrez très bien, ce film s'appelle « Ennemi d'État », comment, en effet, si on mettait tout ça en œuvre, j'ajouterais les satellites tels que le programme Echelon qui existe aujourd'hui, satellites qui nous surveillent, eh bien, c'est quelque chose d'assez terrorisant. Donc, vous le regarderez, c'est un film qui est sorti il y a 2 ans et il est en vidéo. Alors, maintenant que je vous ai bien fait peur, quels moyens avons-nous pour créer la confiance et la sécurité ? Alors, je voudrais déjà dire que la sécurité des transactions sur Internet ne concerne pas les seuls échanges monétaires. Quand on lit la presse, on ne parle de sécurité que pour ce qui est les paiements. C'est en effet toute la dématérialisation des échanges électroniques qui couvre ce large secteur, que ce soit l'envoi de documents personnels ou professionnels, les publications juridiques ou autres qui comportent des informations nominatives, les bases de données qui revêtent un caractère public, qui sont diffusées sur le réseau international et grand public qu'est Internet, et ces bases-là appellent à la vigilance. Les derniers sondages effectués auprès des utilisateurs d'Internet montrent bien où se situent les craintes dans l'utilisation du réseau. La première chose qui vient, en général, ce sont les données personnelles et la vie privée. 70% des internautes américains déclarent quitter les sites qui leur demandent des informations ou en fournir des fausses. Donc, vous voyez, c'est pratique après pour les sites de commerce, ça ne sert plus à rien. Déclarer de fausses informations aux sites auxquels ils répondent. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission se fonde sur des calculs de pertes économiques pour réclamer des règles contraignantes, c'est-à-dire des règles de la régulation. De plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Maison-Blanche étudie actuellement les aspects des faillites et de la vie privée par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces sociétés, ces start-up qui s'arrêtent et qui ont à l'actif les données personnelles et qui les vendent. Par contre, en France, 62% des internautes français estiment que le fonctionnement d'Internet ne se caractérise pas par une utilisation abusive des informations personnelles, et 86% déclarent être en faveur d'une intervention de l'État pour réglementer l'usage des données personnelles ou pour préciser les règles de bonne conduite que doivent respecter les acteurs. C'est un sondage Ipsos Media Anglais Map qui a été fait en juillet 2000 et qui montre bien la différence entre les États-Unis et la France, où les Français sont depuis 20 ans avec une culture informatique et liberté et se pensent préservés. En ce qui concerne les cartes bancaires, puisqu'on parle toujours de l'insécurité des paiements, au passage, je voudrais rappeler que votre numéro de carte bancaire, quand vous le mettez sur le réseau, eh bien, c'est une donnée personnelle, comme votre numéro de téléphone, comme votre adresse e-mail. Eh bien, aujourd'hui, devant le peu de transactions qui existent, puisque dans les paiements à distance, 7% des gens déclarent le faire sur Internet, et sur les 7%, c'est très peu, 33% sont très satisfaits, 46% assez, 13% peu et 8% pas du tout. Donc ces chiffres montrent bien le peu de personnes qui vont jusqu'à une transaction complète sur Internet, montrent bien les freins qui existent là aussi par rapport à la sécurité qui existe sur le fait que nous mettons un numéro de carte bancaire sur le réseau, même avec une technologie, comme je vous l'ai montré aujourd'hui, qu'on trouve dans les navigateurs, qu'on appelle SSL, qui est une technologie qui ne sécurise les données, qui ne les crypte qu'à 40 bits, ce qui est très peu, et qui est facilement on peut facilement la casser aujourd'hui. C'est pour ça que pour répondre à toutes ces craintes, eh bien, il a été décidé de faire que la régulation, après concertation des citoyens, des consommateurs et des professionnels, intervienne. Et nous voyons en effet des directives transposées dans le droit de chaque État, chaque pays et État membre, sur la cryptologie. Vous le savez, la cryptologie a été libéralisée à 128 bits, ce qui est très très important, difficile de casser, et tout prochainement va être complètement libéralisé. Jusqu'à janvier de l'année passée, on ne pouvait pas utiliser la cryptologie à plus de 40 bits, ce que je vous disais tout à l'heure. La signature électronique, la reconnaissance de la signature électronique, très important aussi. Quand j'envoie des informations personnelles via mon email ou via Internet, eh bien, que je puisse signer va sécuriser de l'autre côté. Mais quand il y a signature électronique, il y a la reconnaissance que c'est bien moi qui ai envoyé quelque chose à vous. Mais en plus, il y a l'intégrité de tout ce qui est transmis. Et là intervient la cryptologie. Et puis la dernière qui est en train de se transposer en droit français, c'est la directive sur les données personnelles et la vie privée, mais j'en parlerai un tout petit peu plus après. Donc ces éléments essentiels qui sécurisent et qui permettent en effet à des solutions technologiques de voir le jour, qui permettent de rendre effectif ce droit, elles existent dans tous les domaines. Vous verrez une norme qui est développée par le W3C, qui est le consortium qui s'occupe de toute la réglementation en partie sur Internet. Vous verrez des technologies qui arrivent aussi, qui permettent de rendre effectif la loi dont je vous ai parlé sur la signature électronique, qui va être transposée dans la loi qui va paraître en fin d'année sur la société de l'information. Donc la reconnaissance de la signature électronique aujourd'hui est effective. De plus, ajoutons à ces lois, à ces solutions technologiques, les chartes, labels et codes de bonne conduite instaurés par le monde des professionnels et des consommateurs qui permettent en effet de faire que les professionnels sont conscients et mettent des chartes au site de leurs entreprises, mais des chartes qui respectent la loi, pas des chartes comme Trustee aux États-Unis. Et ces chartes, eh bien, sécuriseront aussi parce qu'on sera sûr que les sites sur lesquels nous allons respectent les règles et respectent tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Alors, la chose aussi très importante, à mon avis, c'est le retour aux valeurs de la République. Nous vivons depuis longtemps, je vais vous rappeler, ça semblera un peu bizarre parce que c'est très vieux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui précise bien que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Vous voyez bien que là, je peux en effet m'éclairer sur cette nouveauté et me manquer sur le passé. Jusqu'à aujourd'hui, toutes ces règles ont fait leurs preuves. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui précise « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. » Et je terminerai en citant l'article 1 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui restera dans la nouvelle loi qu'on est en train de... Ce n'est pas une nouvelle loi, on est en train de l'adapter pour transposer la directive européenne et prendre en compte les nouveautés qui nous sont arrivées avec Internet et les nouvelles technologies de l'information. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Alors, vous le voyez bien, et je vais en arriver à notre loi informatique et liberté. La prise de conscience de tous ces enjeux de la technologie prend place en Europe après le développement de l'informatique administrative. En France, c'était le débat sur la création d'un identifiant unique sur la base du numéro de sécurité sociale qui permettait une interconnexion généralisée avec les bases de données publiques. Et au nom des risques pour la démocratie et les libertés des citoyens, la France s'est dotée, dès le 6 janvier 1978, d'une loi. Depuis, La directive européenne du 24 octobre 1995 a confirmé l'engagement des 15 États membres de l'Union européenne et consacré les principes généraux que je vais vous dire maintenant. Et cette loi, cette directive, est en train de se transposer. À ce jour, il y a à peu près 40 États dans le monde qui ont adopté une législation informatique et liberté. Canada, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Hong Kong, Japon, Israël, Hongrie, Pologne, Russie et les États-Unis qui sont en train de voir que dans certains États, dans les États fédéraux, ils feront des lois précises. Alors, quels sont les principes de cette loi? Il faut les connaître pour les faire appliquer. Eh bien, les principes, le premier, c'est le principe de finalité. Un fichier, vos données qui se rapportent à vous, qui sont mises dans un fichier, ne peuvent être utilisées sans votre consentement pour une finalité autre que celle qui a justifié la collecte. C'est-à-dire que quand on récupère des données sur vous, on doit vous dire pour quelle finalité et on ne peut pas faire autre chose avec. Un principe de proportionnalité. On ne peut pas exiger de la personne sur laquelle on collecte des données et des informations des choses qui ne sont pas nécessaires à la collecte, à la finalité qui a été déclarée. Le principe de loyauté. On ne peut effectuer de collecte et de traitement à l'insu des personnes. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, quand on va dans les lieux publics de l'Internet et qu'on collecte vos emails, eh bien, on ne respecte pas la loi puisqu'on le fait à votre insu. Le principe de l'exactitude et de la mise à jour des données et de la sécurité des traitements. Sécurité des traitements, dans l'informatique telle que nous la connaissions aujourd'hui, c'était faire que les données, les fichiers de données personnelles soient dans un lieu, sur des ordinateurs sécurisés, où tout le monde ne peut pas entrer. Aujourd'hui, sur Internet, vous voyez bien que la chose se transpose. C'est en effet, je ne peux pas utiliser et transporter des données personnelles sans les avoir sécurisées. Et c'est là toute l'importance de la cryptologie. Le principe de transparence qui est reconnu aux personnes. Vous avez un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Et vous voyez bien que dans les sites Internet, on doit vous dire, on devait déjà le dire dans le monde réel, mais on doit vous dire où vous pouvez exercer ce droit d'accès. Il est bien de donner un droit, si vous ne savez pas où l'exercer, c'est embêtant. Le droit d'opposition, vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation commerciale des données que vous avez données à quelqu'un, avec une finalité, à quelqu'un de connu. Si cette personne le rétrocède à des tiers, elle doit vous en informer, elle doit mettre sur le site Internet une case à cocher afin que vous puissiez l'informer que vous ne voulez pas que ça soit rétrocédé à des tiers. J'en reviendrai donc à ce que je vous disais tout à l'heure sur les fichiers informatiques qui sont valorisés dans les sociétés, parce que si elles font faillite, elles les vendent. Eh bien, vous voyez bien que tout ce qui est données personnelles qui sert à du marketing, ils ne peuvent le rétrocéder à d'autres sans vous en avoir informé préalablement et sans avoir enlevé vos données si vous ne souhaitez pas qu'elles soient transmises. Le droit à l'oubli, très très important, car avec l'informatique, et encore plus quand on est avec les réseaux Internet, eh bien, on peut garder dans une mémoire et les transporter dans des États qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Par exemple, les bêtises que vous avez faites à 15 ans parce que vous aviez fait un petit vol, eh bien, dans des données de base juridique, ça peut être inscrit. Et c'est embêtant que ceci reste continuellement à vous basque. Donc, le droit à l'oubli est un droit nécessaire et chaque fichier informatique a une durée de conservation qui doit être limitée et proportionnelle à la finalité. Alors, pour faire que tout ça fonctionne, il a été instauré, en effet, une autorité administrative indépendante. Et cette autorité administrative indépendante est importante parce que vous pouvez l'utiliser. Si vous ne trouvez pas de droit d'accès, vous pouvez vous adresser à la CNIL. Elle est là pour faire, en effet, que vos libertés, votre vie privée, vos données personnelles, on les respecte selon le droit. Et à ce jour, la transposition de la directive européenne dans le droit français se fait. Va encore élargir les possibilités de contrôle a posteriori qu'avait la CNIL en faisant que, bien souvent, s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la loi, eh bien, vous pouvez vous demander à la CNIL, et la CNIL peut faire en effet des contrôles dans les entreprises, et c'est passible du pénal. Et dans la nouvelle loi, puisqu'on parle de commerce électronique beaucoup, eh bien, toute personne qui ne respectera pas, toute entreprise, pourra avoir des pénalités, qui sont des pénalités qui vont jusqu'à 3 ou 5% de leur chiffre d'affaires, avec une limite plafonnée. Aujourd'hui, en Europe, tout est harmonisé, donc vous voyez bien que tout ce qui va se promener entre les différents pays, ce sont les mêmes règles. Dans chaque pays d'Europe, il y a une autorité qui est là pour faire respecter, pour faire évoluer. Et il y a au sein de l'Union européenne un groupe qu'on appelle le groupe Article 29, qui représente, je dirais, une CNIL européenne, puisqu'il y a un commissaire de chaque autorité qui siège et qui suit. Et puis, des relations sont en train de s'instaurer, c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs avec Internet et avec les nouvelles technologies, c'est ce qu'on a vu avec le Safe Harbor. L'Europe a discuté avec les États-Unis pour tous les flux transfrontières de vos données personnelles, et aujourd'hui, des règles, ça a mis 3 ans, mais des règles se sont mises en place, et je dois le dire, ce sont justement nos valeurs fondamentales de liberté de défense de notre vie privée qui sont inscrites dans nos lois républicaines, qui ont prévalu dans les accords du Safe Harbor. Car aujourd'hui, aux États-Unis, sous la poussée des consommateurs et des entreprises qui s'aperçoivent que c'est nécessaire qu'il y ait des règles, eh bien, ce qui n'était pas possible il y a encore 2 ans, 1 an, le devient aujourd'hui, et nous pouvons discuter et faire que des règles qui sont ces valeurs que nous avons défendues continuellement, qui restent d'une exceptionnelle actualité en raison des principes qui sont les principes qui ont été fondés, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces valeurs, si nous les défendons, elles passent, et elles passent très bien. Autre possibilité pour éviter d'en arriver à ennemi d'État, la formation de tous à l'utilisation et à la connaissance des nouvelles technologies comme moyen de vigilance. C'est par la formation pour les professionnels et les citoyens, c'est par la connaissance que nous pourrons arriver à faire que les choses ne soient pas telles que j'ai pu le décrire tout à l'heure. Les professionnels, pourquoi ? Pour faire les produits et services adéquats, conformes et vigilants à la vie privée. Je ne vous rappellerai simplement que les erreurs qu'avaient fait Microsoft et Intel en mettant des choses dans les ordinateurs qui faisaient que chaque fois que vous connectiez, ben, ils savaient où vous étiez, ce que vous étiez. Il a fallu leur rappeler que ça n'était pas possible. Et puis les citoyens, pour qu'ils apprennent à se protéger. Alors les deux, à se protéger et à comprendre quoi ? L'utilisation de la technologie, les principes de la protection des données, et puis les droits personnels de chacun. Alors en ceci, l'État peut particulièrement aider parfois. En montrant l'exemple, c'est ce qui a été fait au travers de l'administration, l'arrivée des téléprocédures, déclaration TVA, déclaration d'impôt, eh bien, ça va permettre à chacun d'apprendre. En débloquant des fonds, c'est ce qui a été fait dernièrement avec le comité interministériel pour la société de l'information qui a débloqué 3 milliards de francs, c'est encore peu, les Allemands en avaient débloqué 40. Pour développer des lieux publics d'accès Internet, dans les bureaux de poste, dans les agences de mission locale pour l'emploi, dans les bibliothèques publiques, et puis surtout développer l'offre de formation aux nouvelles technologies dans tout le système éducatif. En effet, la totalité des écoles, des collèges, des lycées seront raccordés à Internet avant de la fin de l'année scolaire 2001-2002. Les universités aussi sont importantes. En faisant des règles qui permettent de favoriser l'équipement des ménages et des associations, et puis, je dirais, en permettant, en effet, en favorisant la déclaration et la formation des entreprises, c'est ce que fait le réseau des chambres de commerce et de l'industrie. Et puis je terminerai, c'est ce que fait l'échangeur, puisque nous lançons un réseau échangeur avec des centres dans toutes les régions pour que les entreprises puissent aussi venir se former à ces nouvelles technologies et comprendre un petit peu ce qu'on peut en faire et ce qu'on ne peut pas en faire. Voilà, maintenant je suis ouverte à vos questions.
Merci pour cet exposé particulièrement brillant et interactif. Il nous a particulièrement sensibilisés à l'évolution d'Internet. Et vous avez mis le doigt, en fait, sur quelque chose de primordial, c'est que c'est un réseau mondial. Et comment faire avec notre législation française, européenne, alors que le problème se pose, puisque c'est un problème mondial, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une régulation mondiale sur ce sujet ?
Je réponds tout de suite. Alors, je vous en ai un peu parlé. Oui, bien sûr, c'est un réseau mondial. C'est bien l'intérêt, d'ailleurs, que je trouve, justement, à ce qui se passe, c'est que des cultures, des législations, des réglementations, l'autorégulation, la régulation sont en train de se rencontrer, chacun s'enrichissant les uns des autres. Dans nos pays d'Europe, on parlait beaucoup de régulation, dans d'autres, on parlait d'autorégulation. Et aujourd'hui, que ça soit chez nous, ailleurs, on parle de co-régulation, c'est le mot magique. Donc, c'est quoi ? C'est qu'en effet, on s'enrichit les uns les autres de ce qui est nouveau. Et je vous ai dit que 40 États, je vous les ai même cités, aujourd'hui, ont créé une réglementation, qu'il y a des accords qui ont été faits avec les États-Unis, c'est le Safe Harbor, c'est-à-dire que, ensemble, si dans un pays d'Europe, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas conforme, et que des données françaises sont exploitées de façon anormale, dans les cas de faillite, hein, je vous disais, je prends l'exemple d'Amazon. Amazon.fr s'est installé avec beaucoup, la Une du Monde, trois pages dans Libé, etc. Eh bien, s'est installé en France il y a un mois. Mais toutes les données personnelles sont aux États-Unis. Et quand Amazon.com décide et dit qu'il se réserve le droit de vendre les fichiers, il le fait, mais pour les États-Unis. Tout ce qui est du domaine des données personnelles, il ne pourra pas le faire parce qu'elles ont été collectées en France. Donc, c'est ça l'intérêt d'Internet, c'est qu'il est en train de faire que des États qui avaient des cultures et des règles différentes, j'ai parlé des États-Unis, je peux en parler d'autres, je peux donner d'autres, font qu'il y a des législations qui vont communiquer, il y a des lois, des règles qui vont communiquer, mais que de toute façon, la règle qui sera celle qui sera, si ce sont vos données personnelles qui ont été collectées sur le sol français, elles ont été collectées sur le territoire français. Et que la règle qui sera celle qui sera certainement vue, s'il y avait un problème, eh bien, c'est votre droit sur le territoire où elles ont été collectées. Donc, il y a les relations, c'est pour ça que j'ai parlé du Safe Harbor, les entreprises américaines qui ne respecteraient pas si on le voyait en France, on ferait un appel à la CNIL qui se retournerait vers l'Europe et qui se retournerait vers le FTC aux États-Unis, Federal Trade Commission, pour dire cette entreprise pose problème et c'est le FTC qui le réglerait le problème sur son territoire. Donc il y a des accords, mais je vais vous donner un exemple. Vous avez tous vu dans la presse le problème de Yahoo, la vente aux enchères avec des objets sur le sol français interdits par la loi. Eh bien, vous voyez bien comme actuellement, le juge est en train de regarder, car en effet, la loi française domine et Yahoo.fr ne doit pas vendre, ne doit pas permettre que, arrivant de Yahoo.com, arrive sur le sol français des choses interdites par la loi. Pour le moment, la technologie est nouvelle. Donc le juge, dans sa grande sagesse, a demandé à des experts de regarder comment on pouvait bloquer les choses, mais elles sont bloquables. Vous savez, avant que le TGV arrive, il y avait le petit train à vapeur, etc. Donc les choses évoluent tous les jours. C'est ce que je vous disais avec cette technologie. On n'en est qu'au début. Et elle va à une vitesse extraordinaire. Et il ne faut peut-être pas non plus faire des lois trop vite, car on ne sait pas encore tous les usages. Donc il faut aussi, de temps en temps, aller avec une certaine lenteur, même si les choses vont très vite. C'est la complexité de ce qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles technologies et tout particulièrement le réseau Internet.
Monsieur, là, il y a plein de questions.
Oui, en fait, les lois ne sont intéressantes que si, au cas où elles sont violées, la justice peut, premièrement, ne pas se tromper de coupable, c'est-à-dire pas faire trop d'erreurs judiciaires, deuxièmement, sévir contre les vrais coupables. Alors, est-ce que les possibilités extraordinaires de la technologie vont pas transformer nos lois sur les libertés en coquilles vides, faute de pouvoir, premièrement, ne pas se tromper de coupable, deuxièmement, pouvoir les détecter et sévir.
D'accord. Merci.
Je crois, dans ce que je vous ai montré, vous avez montré qu'il y a des possibilités quand même de traçage. Donc, le vrai coupable, la technologie permet aujourd'hui quand même, quand il y a une action de justice, de trouver les coupables. On l'a bien vu dernièrement avec les pirates qui avaient posé quelques problèmes. On les a trouvés assez rapidement. La technologie permet des choses. Ce qui est négatif d'un côté, quand on parle de vous, de moi, de notre vie privée, devient positif quand, en effet, la justice peut saisir en utilisant ces éléments qui permettent, en effet, de voir de façon très précise où sont les coupables. Alors, le coupable, souvent, on pourra détecter une machine, on pourra détecter... Mais on a des possibilités de le trouver. On l'a vu dernièrement dans les affaires qui ont été, il y a quelques mois, assez importantes par rapport aux jeunes qui étaient rentrés dans les bases de données très importantes. On les a retrouvés.
Monsieur, allez-y.
Oui. Y a-t-il un article prévu sur la protection des données personnelles dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ?
Oui, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a consacré, et il y a une chose très importante, sous présidence française, ces droits fondamentaux de la personne vont être complètement validés au niveau de l'Europe d'ici la fin de l'année. Oui, la protection des données en fait partie. Enfin, la vie privée en fait partie.
Monsieur, on va prendre 2-3 questions encore, parce qu'il est tard.
Compte tenu de ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'évolution rapide de la technologie, la nécessité d'experts, est-ce que vous pensez que pour juger ces affaires, il faudrait des tribunaux spéciaux, c'est-à-dire des tribunaux formés spécialement pour ce genre d'affaires ?
Je vais vous répondre non, parce que je suis, moi, quelqu'un qui défend le fait que, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire à la fin, que les principes qui sont ceux qui sont, que j'ai même relus, s'appliquent aussi à la technologie Internet. Quelques petites choses à y faire évoluer, mais pas beaucoup. Il y a des experts, les tribunaux peuvent s'adresser à des experts s'ils en ont besoin, des experts techniques. Mais je suis en désaccord total avec des mondes à vitesse différente. Il y aurait le monde du virtuel et le monde du réel. Alors dans le commerce, on jugerait le commerce réel, le commerce virtuel. Dans les données personnelles, il y aurait la CNIL virtuelle, la CNIL du réel. Non, je suis contre. Par contre, que les tribunaux puissent s'adresser à des experts, voire même ceux qui font les législations. Je vais prendre un exemple. Quand la signature électronique est passée à l'Assemblée nationale, nos députés ne sont pas des experts. Eh bien, la commission des lois, dans son extrême sagesse, a pensé qu'il fallait les former, leur montrer, et ils sont venus voir ce que ça voulait dire, la signature électronique, comment c'était effectif avec la technologie. Oui, je pense qu'il faut se former, c'est pour ça que j'ai fini mon propos sur la formation, à tous les niveaux. La formation des entreprises, la formation des citoyens, la formation de ceux qui font les lois, mais ils peuvent s'adresser lorsqu'ils en ont besoin. C'est ce qu'a fait le juge dans l'affaire Yahoo, s'adresser à des experts. Mais je suis vraiment contre un tribunal qui serait particulier et des juges qui seraient particuliers. Je crois que derrière tout ça, il y a des hommes, des femmes, et qu'ils soient sur le virtuel ou sur le réel, c'est aux mêmes choses, alors du moins en ce qui concerne la vie privée et la liberté, qu'il faut répondre. Par contre, là, en effet, la technologie est tellement sophistiquée et va si vite que parfois, il faut s'adresser à des experts pour pouvoir comprendre ce qu'il en est, mais en restant quand même sur les valeurs fondamentales.
On va prendre encore 3 questions. Donc, mademoiselle.
Bonjour. Vous avez dit que, en fait, la cryptologie, c'est une moyenne pour sauvegarder certaines libertés de citoyens. Et vous avez dit qu'en fait, l'arrivée en Europe, enfin, de la cryptologie à la technologie de la cryptologie à 128 bits. En fait, c'est une bonne nouvelle pour notre protection. Mais en fait, on sait très bien que la raison pour laquelle enfin l'Europe a accepté la technologie à 128 bits, c'est parce que les organismes comme la National Security Agency aux États-Unis et j'imagine les gouvernements en Europe ont la possibilité de décrypter ces messages. Donc, est-ce que ça ne donne pas un faux sens de sauvegarde de la vie privée?
Non, je veux dire, oui, il y a des possibilités de décrypter, mais je le retournerai, c'est-à-dire que ça permet de garantir la vie privée aussi parfois. Si quelqu'un fait quelque chose, un acte de terrorisme, un acte, etc., il est peut-être parfois intéressant, il n'y a pas de liberté sans responsabilité, de voir, mais pas n'importe comment. Et quand je vous ai parlé de la cryptologie, je vous parlais en effet sur ce réseau, quand vous envoyez quelque chose qui vous concerne, tout le monde peut l'intercepter. Votre numéro de carte bancaire, s'il n'est pas crypté, tout le monde peut l'intercepter. Donc, je parlais en général, mais je pense quand même que de temps en temps, il faut bien quand même que les clés soient quelque part pour qu'en cas de grave problème, on puisse, mais avec des sécurités et pas n'importe comment.
Monsieur,
je suis profondément contre, par exemple, le système échelon qui se promène sur nos têtes en continu.
Oui, bonsoir, madame. C'est moi.
Oui, c'est vous. On se connaît.
Bon, ça va. Bon, mais justement, à propos des choses dont vous avez parlé, qu'est-ce qui nous prouve réellement qu'il existe ce droit à l'oubli dont vous avez parlé? La technologie, est-ce que ça nous prouve réellement qu'il est possible de, réellement d'avoir un droit à l'oubli? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas non plus, en parallèle, enfin, contre ça, des effets pervers?
J'interviens quand je vous ai dit qu'il y a... J'ai parlé des droits qui sont ceux qui sont reconnus dans la loi informatique et liberté. Pour Echelon, ça ne dépend pas de la loi informatique et liberté. On est dans le domaine de la sécurité, de règles qui sont ailleurs. Je plaisante parce que plusieurs fois, j'ai souhaité qu'on s'y intéresse, mais... on ne peut pas, ça c'est domaine réservé. Donc, je dirais que le droit à l'oubli, il existe, il est dans la loi, mais dans la loi qui est la loi sur la vie privée et les données personnelles. En ce qui concerne si Echelon mémorise des choses vous concernant, comme ça ne dépend pas de la loi informatique et liberté, eh bien, c'est hors le droit. Dans lequel je me trouve et que j'essaye de faire appliquer. Donc, vous voyez bien que là, en effet, quand je parlais de formation des citoyens et des entreprises, dans une démocratie, c'est ça, chaque citoyen de s'occuper aussi de sa vie privée, de ce qu'il est lui, et de faire qu'il le fasse savoir. Je suis toujours fort étonnée du peu de connaissances déjà sur cette petite loi, qui n'est pas si petite que ça, qu'ont les citoyens, les individus, les consommateurs, le peu de connaissances qu'ils en ont et le peu d'utilisation qu'ils en font. Donc je crois très très important en effet que chacun soit formé, comprenne ce qui se passe avec ces nouvelles technologies et que si j'ai fait ce tableau noir du début, c'était pour montrer qu'aujourd'hui, en effet, une société de surveillance est totalement possible de façon assez importante et que, eh bien, à chacun de faire que le droit existe. Et pour cela, eh bien, dans une démocratie, je ne connais que les assemblées parlementaires et vous avez tous un droit de vote et c'est à chacun de s'y intéresser et de faire que les choses changent. Echelon est quelque chose qui ne dépend pas en effet, de la loi informatique et liberté. Donc, il faut voir ailleurs. Pour le moment des faits, vous avez des possibilités d'être suivi, d'être tracé. Mais je dirais que c'était déjà comme ça avant l'arrivée d'Internet. J'ai connu les tables d'écoute, j'ai connu la vidéosurveillance, etc. Une partie de la vidéosurveillance ne passe pas dans la loi informatique et liberté, car la loi informatique et liberté, il faut qu'il y ait un fichier. S'il n'y a pas de fichier, s'il n'y a pas de transposition de quelque chose, s'il n'y a pas de travail fait à partir des données, eh bien, ça ne dépend pas de la loi informatique et liberté. la vidéosurveillance depuis la loi Pasqua enfin, n'est pas comprise dans la loi informatique et liberté.
Dernière question, monsieur.
Le tableau noir que vous avez dressé, là, assez terrifiant d'ailleurs, tout à fait terrifiant en fait, me paraît encore rose par rapport à celui qu'a dressé hier l'expert en sécurité, monsieur Martin. Donc je suis un peu sceptique sur votre confiance tout de même. Il me semble qu'à une époque, on distribuait comme ça des aiguilles de radium. Il est peut-être temps de développer quelques mesures de prophylaxie simples pour le grand public qui n'a pas forcément une agrégation en électronique ou en mathématiques. Donc je crois qu'il y aurait peut-être un état d'urgence à décréter avant qu'il soit trop tard. En particulier, il y a un petit détail que Sam ne l'avait pas cité dans votre tableau, c'est le fait que quelqu'un peut venir visiter votre ordinateur à votre insu. Et certains, et non des moindres, comme AOL, ont réalisé ces jours-ci que leur site avait été piraté. Alors au fond, à quoi bon émettre des lois si les commerçants sont complètement dépourvus de protection ? Même s'ils vous garantissent, s'ils vous offrent une garantie, comment peuvent-ils eux-mêmes, ils n'ont eux-mêmes, d'après ce que disait hier le conférencier, aucune certitude qu'ils ne seront pas eux-mêmes violés ? Donc il me semble qu'on est dans une situation tout à fait inacceptable et nouvelle dans l'histoire de la civilisation.
Oui, mais c'est bien pour ça qu'il faut absolument préserver. Quand je vous parlais de l'affaire de Microsoft et d'Intel, ce qu'ils avaient mis leur permettait en effet de rentrer dans votre ordinateur. Et s'il y a des gens vigilants, experts ou non, vous savez que bon nombre de jeunes sont très rapidement experts, eh bien, on s'aperçoit de ces choses-là. Et il faut à ce moment-là, là, dans le domaine de Microsoft et d'Intel, c'est parce qu'il y a eu des dénonciations à la CNIL que la CNIL est intervenue. Et à ce moment-là, on peut en effet faire que on demande que les règles soient respectées. Alors, cette technologie d'autres choses peut s'inventer en continu, mais c'est en continu qu'il faut être vigilant. Et c'est pour ça que j'intervenais en disant, voilà ce qui se fait, je ne sais pas encore ce qui se fera demain. Mais voilà ce qui se fait, mais il faut tout le temps être vigilant. Je vais vous dire, le code de la route interdit d'aller à 200 à l'heure sur l'autoroute, et il m'arrive de rencontrer des voitures qui vont très très vite et qui vont très loin très vite. C'est à chacun d'être vigilant, et c'est à chacun de se comporter, à mon avis, en citoyen, et de faire que les choses ne dépassent pas ce qui n'est pas acceptable, selon les libertés de chacun. C'est vrai que cette technologie est unique, et qu'on voit qu'elle peut faire des choses vraiment très préjudiciables pour notre vie privée, mais c'est à chacun. Derrière la technologie, il y a des êtres humains, et c'est les âmes qui font que ça devient ce que c'est. Les commerçants pour faire plus de commerce, les pirates pour faire plus de piratage, etc., etc. C'est à chacun d'être vigilant. Oui, la technologie est parfois terrifiante, c'est pour ça que je vous ai dressé ce tableau, mais elle est là. Celui qui a inventé la bombe atomique, il ne l'avait pas inventée pour faire ce qui s'est passé. Donc, c'est l'homme qui est derrière tout ça, et c'est à chacun de nous d'être vigilant pour que ça ne se passe pas.
Bon, on va s'en tenir là parce que...
C'est à l'État, c'est à chacun de vous, parce que l'État, quelque part, c'est vous. C'est vous qui vous faites que vous soyez représentés.
Merci. Alors...